Sud.
QUB. Du front, des idées, du crâne.
Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue.
Pour comprendre le monde qui vous entoure.
Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, QUB. Un média pas comme les autres.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi le 12 avril. Bienvenue à ce nouvel épisode de QUB. Je dois vous dire que ça a été une drôle de semaine parce que moi, lundi, j'ai commencé ça en sortant du studio de QUB pour aller couvrir l'éclipse solaire au parc Jean Drapeau, moment historique. Et là, aujourd'hui, vendredi, je termine la semaine en remplacement de ma collègue Sophie Durocher. Donc, non pas un, mais deux événements rares dans la même semaine. Donc, un léger stress aujourd'hui, je dois vous l'avouer. Je m'appelle Stéphanie Villeneuve. Si vous êtes des habitués de QUB, ben vous m'entendez à travers la programmation avec mes collègues. Mais aujourd'hui, on va passer l'heure ensemble. D'ailleurs, je trouve ça bizarre là, d'essayer la chaise officielle. C'est de ça que ça a l'air. D'habitude, je suis confortable dans mon petit fauteuil, mais là, oui, j'essaie la vraie de vraie chaise. Puis d'habitude, j'avais juste les commentaires de Benoît Dutrisac comme quoi, palais, l'éclairage, c'est fort. À date, ça va quand même bien. Mais tout ça pour vous dire que c'est nouveau aujourd'hui et que je suis très, très heureuse que les patrons m'ont fait cette confiance-là. Je suis très contente de remplacer Sophie aujourd'hui. Puis on vous a préparé un épisode où on va parler de culture. On va parler de sport aussi. C'est rare que je fais ça, mais oui, je vais me mouiller. On va parler d'événements aussi. Un peu à travers le Québec parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent. Le printemps, oui, c'est la saison du renouveau, c'est la saison des beaux jours qui commencent, mais c'est aussi des fois la pluie comme en fin de semaine. Donc, on va faire le tour, entre autres, des activités qu'il y a à travers la province. Je pense qu'on va avoir bien du fun. Mais comme je suis pas trop dans mes pantoufles, je me suis dit que je vais commencer ça avec un sujet de chez nous parce que moi, je suis une fière charlevoisienne et à toutes les fois que je rencontre des gens puis que je leur dis « Hey, moi, je viens de Charlevoix », ben j'ai souvent deux réactions. Soit, ah, oh, chanceux, c'est tellement la plus belle région du Québec. Dans ce temps-là, je bombe le torse. Ou la deuxième réaction, ben c'est souvent, ah, oh, j'adore le festif. J'y vais pratiquement à chaque année. C'est devenu une icône de la région. Donc, je reçois Stéphanie Gingras, qui est directrice des communications pour le festival Le Festif. Salut Stéphanie.
Allô, ça va bien?
Ben ça va super bien. Je suis vraiment contente de te parler et je tenais à ce qu'on ait une discussion aujourd'hui parce que vous avez vraiment eu une grosse semaine. Vous avez annoncé la programmation lundi. Hier, eh ben c'était la mise, la vente en fait, l'ouverture de la billetterie. J'imagine que ça a été une semaine où qu'il y a pas eu beaucoup de sommeil pour toute la gang là.
Non, exact. Et aujourd'hui, c'est une plus petite journée. Là. Je termine avec toi.
Ah bon, ben tant mieux. Ben oui, j'imagine que les entrevues se sont succédées. Je veux qu'on parle de la programmation un petit peu plus tard, mais moi, ce que je trouve important de souligner, c'est que cette année, c'est la 15e édition du Festif. Puis écoute, je me suis amusée à retourner un petit peu dans les archives. Donc, première édition qui était en 2010, ça avait été une soirée avec 5 spectacles et 2000 festivaliers. Là, on est 15 ans plus tard, puis là, on regarde tout ce qui s'est passé. Toi, d'ailleurs, je pense qu'avant d'être directrice des communications, t'as été une festivalière, hein?
Oui, ben oui, moi, mes grands-parents habitent dans la région de Charlevoix, puis mes parents m'amenaient au festif depuis que je suis toute petite. Fait que moi, j'ai grandi avec le festif. Fait que là, aujourd'hui, d'avoir mon poste, c'est quand même une fierté pour moi là, d'avoir vu grandir le festival, puis maintenant de pouvoir en prendre part, puis l'amener plus loin aussi. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment un honneur pour moi.
Ben, tu viens de le dire, l'amener plus loin, ça a vraiment évolué avec les années. Qu'est-ce que tu penses qui a fait en sorte que le festif a gagné cette notoriété-là?
Ben, je pense que le festif, c'est jamais dénaturé. En tant que tel, c'est les deux mêmes cofondateurs qui sont là depuis 15 ans. C'est un festival qui est porté par ses valeurs aussi. T'sais, on a à cœur les citoyens et citoyennes de Baie-Saint-Paul, par exemple la prévente locale, où on les informe aussi en primeur de qu'est-ce qui se passe dans notre festival. On veut vraiment qu'ils se sentent bien. On fait des shows dans leurs cours. Puis les valeurs aussi un petit peu magiques du festif qu'on tente de garder à année après année, on se renouvelle tout le temps des nouvelles scènes, des nouveaux sites, des groupes qui sont très méconnus ici au Québec. Fait que je pense que c'est ça, on a gardé notre ADN au fil des années, puis c'est dû, selon moi, à la magie des deux cofondateurs.
Ben oui, tout à fait. Puis t'en as glissé un mot, l'apport des résidents, un peu l'appui des bénévoles. Depuis le début quand même, les résidents de Charlevoix vous supportent et sans eux, peut-être que le festival ne serait pas là où il est aujourd'hui.
Ouais, effectivement, on est vraiment vraiment chanceux là au festif d'avoir cet appui là, tu sais, par exemple, là, on verrait pas ça dans des grandes villes, mais nous on peut se permettre de faire des spectacles jusqu'à après 23 heures parce qu'on a l'accord des citoyens citoyennes, tu sais, c'est vraiment 3 jours qui deviennent festifs pendant notre festival, fait que c'est ça, on est super chanceux. En même temps, on essaie vraiment de les écouter, ça donne, notre porte est toujours ouverte si jamais il y a quelque chose qu'on peut faire pour s'améliorer, on tente toujours vraiment de les chérir le plus qu'on peut. C'est vraiment important. Ça se fait pas sans eux.
Et comme tu le dis, tu les impliques parce qu'entre autres, oui, il y a des spectacles qui sont faits dans la cour arrière de résidents. Il y a des spectacles aussi qui sont faits sur la rivière du Gouffre. Tu sais, vous avez à chaque année des lieux inusités comme ça qui rend le festival tout simplement magique. Est-ce que tu peux nous dire justement, y a-t-il des lieux comme ça qui sont devenus emblématiques avec le temps, qui reviennent encore cette année? Ou je pense que vous avez des nouveaux sites aussi. Est-ce que c'est des surprises, tout ça?
Oui, dans les lieux emblématiques, là, c'est sûr que notre scène principale, elle est dans la cour du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Cette scène-là est là depuis plusieurs années quand même. Là. Notre scène principale, c'est aussi la place où est-ce qu'on a le plus de place pour accueillir des festivaliers. Sinon, en termes de lieux mythiques, il y a le parc de la Virevolte qui accueille notre scène Auto-Québec. Ça, c'est un super beau parc. C'est là où est-ce que les citoyens et citoyennes jouent à la pétanque, entre autres aussi. Des fois, il y a des tournois de pétanque pendant qu'on fait des spectacles. Sinon, en termes de nouvelles scènes, on a une scène qu'on avait inaugurée en 2022 qui revient cette année, en 2021, pardon, c'est chez Béton Provincial. Cette année, ça va accueillir un plus petit spectacle que ce qu'on faisait en 2021, fait qu'il est vraiment sur une bétonnière, là, à proprement dit.
Oh, ouais,
on a aussi le pit à sable. Ouais, on a aussi le pétasable qui est assez mythique là. Ça prend une navette pour se rendre, puis on arrive dans un endroit qui est post-apocalyptique avec des pits à feu, on a une collaboration avec IEM aussi pour avoir des chars écrasés.
Fait que ouais, c'est, ben, ça, faut, on dirait faut vraiment. Faut venir de la région pour savoir c'est quoi un pétasable.
Ah oh, ouais, peut-être.
Mais de faire des spectacles dans des lieux comme ça, amener la technique, ça doit être assez complexe. Puis là, je pense qu'il faut toujours garder en tête qu'un festival, c'est à l'extérieur. Donc, il faut toujours prévoir un plan B. Tout d'un coup que l'orage éclate, ben là, est-ce que ça veut dire que vous avez toujours un double d'équipement au cas où?
Oui et non, c'est-à-dire que pour la grosse scène, c'est pas faisable à Baie-Saint-Paul, malheureusement, considérant que on n'a pas de lieu qui abrite qui pourrait abriter autant de festivaliers. Mais pour des plus petites scènes, effectivement, qu'on ait une scène backup au cas où qu'il pleuve, qui est montée en cas de pluie maintenant. Ouais.
En tout cas, l'année passée, ça avait bien été. Mais là, parle-nous de cette programmation-là. Donc, 15e édition, vous avez quoi? Oui. 110 nouveaux artistes. C'est la première fois que vous allez chercher autant d'artistes?
Oui, effectivement. C'est aussi la première année qu'on a autant d'internationaux. Donc, 20% d'internationaux. Puis c'est aussi une programmation qui est paritaire. Fait que ça, on est bien fiers de ça aussi.
Ben justement, j'ai une question sur l'aspect d'artistes internationaux. C'est quoi le désir qu'il y a derrière ça? Parce que, tu sais, tout le long de l'été, il y a des festivals dans n'importe quelle région qui vont chercher justement des artistes à l'international. Vous, ce qui est quand même le fun, c'est qu'on priorisait les artistes d'ici puis que ça fonctionnait quand même à la planche. C'était quoi le désir d'aller chercher des artistes internationaux?
Ben nous, en fait, on fait un festival pour les mélomanes, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des gens qui ont le désir de découvrir de la nouvelle musique, qui veulent vraiment, qui sont des assoiffés de musique. Puis Clément, notre directeur général et directeur à la programmation, lui, il fait beaucoup de voyages pour aller découvrir des pépites d'ailleurs aussi, parce que oui, nous, on met de l'avant la culture québécoise, mais il y a aussi de la culture d'ailleurs qui est de la relève aussi. Puis nous, on veut vraiment faire découvrir aux gens d'ici ces pépites-là. sais, fait qu'on les amène. Souvent, c'est pas des artistes qui se retrouvent sur notre scène principale. On leur donne, souvent, c'est gratuit, en fait, pour que les gens aient découvrir ces artistes-là d'ailleurs. Fait qu'on les traite un peu comme des artistes québécois de la relève, mais c'est des artistes d'ailleurs de la relève souvent, mais qui aussi des artistes super connus internationalement. Je pense à Bombino, par exemple, ouais, qui est un très grand artiste international que nous, on a la chance d'accueillir sur la scène du Garage du Curé.
Donc, des artistes émergents. Mais j'en nomme quelques-uns parce que ça vaut vraiment la peine. Half Moon Run, Carquois, Sale Barbe, Le Roi, La Rose et Le Loup, Galaxy. Il y a Émile Bilodeau qui sera présent, Béris, Marie-Annick, Lépine, À la Claire ensemble. Et tu le dis parce que ce qui est important quand même du festif, c'est qu'il y a une grosse partie où c'est gratuit. On a ce qu'on appelle des pop-up shows, donc des spectacles imprévisibles où les gens n'ont pas nécessairement d'avoir un billet. Donc, même si on a peut-être pas réussi à mettre la main sur un laissez-passer, on peut venir quand même passer la fin de semaine à Baie-Saint-Paul et assister à des petits spectacles comme ça qui vont se pointer ici et là.
Oui, absolument. Puis même 45% de notre programmation est gratuite. Je mentionnais le Garage du Curé, mais c'est une scène qui est 100% gratuite. Pas besoin d'avoir de billets. La scène de la microbrasserie qui va accueillir aussi Jérôme 50, par exemple, c'est gratuit. Fait qu'on a vraiment une grosse, grosse œuvre gratuite. Donc oui, les gens peuvent venir sans problème passer la fin de semaine avec nous.
Et là, c'était l'ouverture de la billetterie hier. Est-ce qu'il en reste? Ça ressemble à quoi, là, pour ceux qui ont peut-être pas mis la main sur des laissés-passer?
Ouais, il reste plusieurs billets unitaires. C'est vraiment là, il en reste quand même pas mal. Il reste pour le jeudi soir à la place des Jardins, pour Sale Barbe, il reste des billets, pour Québec Redneck, il reste des billets. Donc en billets unitaires, il reste quand même une belle offre encore là. Fait, dépêchez-vous avant qu'il en reste plus.
Ben oui, certain. Puis avant qu'on se quitte, Stéphanie, je trouvais ça important qu'on parle rapidement du festif à l'école parce que il y a beaucoup de nos auditeurs qui sont peut-être pas au courant. T'sais, oui, on connaît le festif parce que maintenant, ça a connu un très gros succès. Mais vous travaillez à l'année longue pour faire voyager nos artistes d'ici à travers les écoles de la province. Et vous allez semer une petite graine qui va peut-être germer chez des jeunes de chez nous puis qui vont se dire « Hey, moi, j'aime ça la musique, j'aimerais ça me lancer là-dedans » ou juste peut-être développer une nouvelle passion. C'est quoi ce programme-là, Festif à l'école?
Oui, ben dans le fond, ça fait 4 ans qu'on a mis sur pied un festival à l'année longue. Dans le fond, où est-ce que on s'en va dans cette année, c'était 80 écoles partout dans la province avec une vingtaine d'artistes. C'est vraiment des gros artistes là qui y vont à chaque année. On essaie de diversifier aussi. Des fois, on revient dans les mêmes écoles, on essaie d'amener un nouveau style de musique. Fait que pop, rap, chansons québécoises, on essaie vraiment de diversifier les styles pour créer plein de petites mélomanes partout au Québec, puis aussi de leur faire voir que oui, la musique qu'on entend sur TikTok, c'est vraiment le fun, mais que on fait aussi de la bonne musique ici, puis que c'est important qu'ils s'attachent à des musiciennes québécois.
Ben, tu viens de mettre le doigt dessus, Stéphanie, c'est exactement ça. On veut propager notre culture d'ici puis encourager les jeunes à l'écouter. Ben, merci beaucoup, Stéphanie. Ça a vraiment été un plaisir de te parler. Félicitations pour cette 15e édition. Continuez de faire briller nos artistes d'ici, mais surtout, continuez de créer de la magie. Là. Tu sais, on a tous des souvenirs qui sont rattachés au festif, puis on les a ici dans nos cœurs. C'est sûr que, bon, je suis un petit peu vendue d'avance, là, mais on sera là du 18 au 21 juillet prochain. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça a été un plaisir.
Merci. On se voit cet été.
Oui.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure.
Comme le chantaient si bien César et les Romains, splish splash tout en prenant mon bain. On dirait que je suis pas sûre que tu me trouves drôle, Jean-François Barry.
J'allais voir, j'étais curieux de voir jusqu'où tu avais des paroles, mais ça a été rapide, hein?
Écoute, splish, j'aurais peut-être
splash,
dû vérifier.
Je le sentais si bien, j'avais vidé le réservoir.
Ah, c'est ça qui s'est passé chez vous, hein?
Les pieds sur le plancher tout froid. Tu connais pas tes classiques?
Mais là, oui, au moins, je sais que c'est de César et les Romains. Là, c'est pas tout le monde de ma génération qui les connaît, non?
T'as bien raison. Mais je pense que c'est une reprise américaine en passant.
Ah, mais ces années-là, c'est rempli de reprises américaines.
Ouais, c'est comme « Oh, mon petit sous-marin jaune, petit sous-marin jaune, c'est les baronnets ». Mais c'était de Yellow Submarine, évidemment, des Beatles.
Ben oui.
Mais on faisait ça beaucoup à l'époque.
Oui, c'est ça, il y avait comme une...
Là n'est pas le sujet de notre discussion d'aujourd'hui, Stéphanie.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Heureusement, moi, c'est pas la baignoire. Alors, je te remets en contexte. On est dans la nuit de mardi à mercredi. Et puis là, on dort. Et à 4h du matin, à un moment donné, j'entends comme... un tuyau d'air, une prise d'air, la fenêtre est ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Ah, les enfants, ils doivent avoir un en douche. Là, je regarde sur le cadran, mais qu'est-ce qu'ils font dans la douche à 4 heures? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, tu sais, quand tu es à moitié endormi, tu te demandes si tu rêves pas à ça ou si c'est réel. Là, à un moment donné, ah, c'est moi le père de famille.
Tu vas te lever?
Faudrait bien que je me lève à aller voir. D'un coup, il y a une porte ouverte ou quelque chose. Fait que là, plus je descends, plus je fais non. Ça, c'est pas de l'air qu'on entend. Fait que là, je m'approche du bruit, mais tu sais, je suis en petite bobette, les cheveux de même, puis les yeux...
J'ai les images!
les yeux tout petits. Et quand j'arrive dans la cuisine, flouche, les deux pieds dans l'eau, froide, et je te dirais que là, ça réveille. Là, ça, tu sais, ça
kikine, comme on dit. Là, tu te mets en mode panique, là.
Et là, tu fais, OK, ça coule, et là, avec le son... Et l'eau, je vois où ça coule. C'est en dessous de l'évier. Ouvre la porte. Et ça gicle. Là, je fais
la
comme
grosse pression, là.
Ouais, ben oui. Fait que là, je m'en vais fermer l'arrivée d'eau principale de la maison. T'sais. Et là, hey, crie à tout le monde, venez m'aider. Là, tout le monde descend. Mon gars est en bobette. Je suis les deux en bobette dans la cuisine. La manne a fait, hey, on va prendre le temps d'aller se mettre des culottes parce que l'eau était froide.
Mais en même temps, pas trop long. Il faut qu'il arrête au genou.
Mais en même temps, ça imbibait. Si on avait, écoute, on a imbibé le plus possible.
Mais là, c'est quoi? Vous avez sorti plein de serviettes?
Tout ce qu'on avait de serviettes dans la maison. Là, les serviettes de piscine, les serviettes des salles de bain. Nous autres, on a un petit sauna ici. On a sorti les peignoirs. Tu sais, ça imbibe, mine de rien. Tout ce qui imbibait pour garder ça le plus possible sur la céramique.
La shop-vac, ça marche-tu?
La shop-vac, ça fonctionne assez bien, oui. La bonne nouvelle, là, je vais vous faire une histoire courte, parce que là, évidemment, il y en avait au sous-sol, mais la bonne nouvelle, c'est que comme nous autres, Nathan est un joueur de hockey, il y a un petit coin sous-sol, il y a un petit coin hockey au sous-sol, donc le plafond n'est pas fini. Là, puis dans l'espèce de petit bar à débarras, parce que comme il envoie les rondelles un peu partout, on s'est dit, ça donne rien, il va y avoir des trous éventuellement dans ces murs-là, le plafond. Fait qu'on ne l'a pas fini, donc là où ça a coulé...
C'est là.
Ouais, tu sais, fait qu'il y a eu une coupe de boîtes. Mettons ma boîte de raclette, elle a pris l'eau. Mais tu sais, on s'en fout un peu.
On s'en sert trois fois par année.
Ouais, il n'y a rien eu de valeur là, d'endommager. Là, un petit peu le comptoir en mélamine, là, où est-ce que justement ça s'est mis à fuir dans la cuisine. Mais c'était un méchant paquet de troubles pareil, parce que l'eau, ça va partout, dans le garde-robe.
C'est ça.
Ça se faufile.
Ça
là,
s'infile.
C'est fou. Pas assez pour que ça crée des dommages, puis on l'a pris en temps, mais ça va partout. Là, il a fallu avancer le lave-vaisselle, avancer le four, avancer le frigidaire, parce qu'il y avait de l'eau jusqu'en dessous de ça, séché dans le garde-manger. Et pour vrai, là, il est 4 heures du matin, je te rappelle.
Mais ça
ne
tente pas à cette heure-là. Mais d'ailleurs, là, Jean-François...
Mais en fait, il n'y a pas d'heure que ça tente. Mais cette heure-là,
en fait,
ça tente vraiment
pourquoi
pas.
Ça arrive toujours la nuit, ces affaires-là? On dirait que l'univers est de mèche avec les plombiers pour qu'on sorte le cash pour un appel d'urgence.
Tu sais,
non, mais ça arrive on dirait que ça arrive tout le temps de nuit.
Il y aurait le bonhomme 7 heures puis le bonhomme plombier, mettons, qui vient briser des fils. Mais attends, je vais y arriver à mes câbles qui ont lâché. Parce que là,
je m'en allais faire
salut bonjour ce matin-là. Fait que tu sais, à un moment donné, je vais pas me recoucher. Il est 5h30. Fait que j'ai déjeuné, je suis allé à salut bonjour. Mais j'ai en arrière de la tête que quand je reviens, l'eau est toujours coupée, là. Faut que je vois ça. Puis moi, travailler manuellement, c'est pas mon fort. Fait que là, quand je reviens, j'arrête à quincaillerie. Là, j'avais vu, c'était un tuyau qui a fendu, un tuyau du robinet qui a fendu, le tuyau d'eau froide.
Demain.
Ouais, l'espèce de petit tuyau, hein, moi j'appelle ça de la cotte de maille. Il y a comme une gaine en aluminium par-dessus. C'est ça qui avait fendu. Fait que là, la tête en dessous de l'évier à défaire l'ancien, installer le nouveau. Puis comme je vous dis, je suis pas trop habile, fait que je sac pas à peu près. Puis là, en tout cas, je passe un peu ma journée là-dessus. Il manque des morceaux. J'ai oublié d'acheter un petit rubber.
Alors, retourne à la quincaillerie.
J'ai pas le bon fitting pour le tuyau. Puis là, je retourne à la quincaillerie. Et là, le gars, j'ai avec ma blonde, parce que c'est elle qu'il faut que je choisisse le robinet, tu sais, parce que s'il n'est pas à son goût, j'aurais beau l'installer. Ça va pas.
J'approuve.
Bah, c'est ça. Fait que là, le gars nous dit. Probablement que ça a explosé parce que à cause des produits chimiques que vous avez en dessous de l'évier.
Ben oui, mais là, qu'est-ce que tu as en dessous de ton évier comme produit chimique?
Ben, comme tout le monde, là, des affaires, des produits nettoyants,
juste du simple,
toutes sortes d'affaires de même là, qu'on a en dessous de. Tu sais, on a plein d'affaires quand même assez puissantes là, quand on veut détacher, enlever une bonne tache ou toutes ces affaires-là.
Oh mon Dieu! OK, juste des petits produits qu'on utilise.
Il me dit ça. Mais là, je te le dis, là, tu sais, depuis 4 heures que je suis debout, là, il est rendu comme 1 heure d'après-midi, j'ai gossé en dessous de l'évier, j'ai fait salut bonjour, j'ai fait mes chroniques à cube. Ça me tente pas d'entendre le petit monsieur avec la tête blanche me raconter sa vie, puis me dire pourquoi que lui, il pense que, puis là, il me dit, oh, puis je changerais ce morceau-là si j'ai tatoué, puis tu devrais couper tes pipes de tuyaux parce qu'il y en a des meilleurs. Ça, je fais,
oui, mais Jean-François, c'est rendu rare de l'expérience à la quincaillerie. Quand on en a, faut en profiter.
Mais je suis d'accord, puis j'ai eu un service extraordinaire. Mais là, je filais pour m'en aller chez nous, finir ça. Tu comprends? J'ai encore du maquillage en face de salut bonjour. Là. Tu comprends?
Il est rendu craqué, là, tu sais.
Mais ma blonde, elle a dit, peut-être qu'il a raison, ce petit monsieur-là. Fait que moi, je me concentre sur l'évier, répare l'évier pour qu'on puisse souper le soir, faire la vaisselle et tout ça, sans que ça coule, parce que je ne sais pas pourquoi, il y avait toujours une petite mosuse de gouttes qui continuait de couler en bas. Mais là, ma blonde a regardé et il a raison. Puis c'est ça que je veux raconter aux auditeurs et auditrices. La régie du bâtiment du Québec, vous pouvez aller voir, ça dit noir sur blanc, que ces produits-là, vu que c'est dans une place fermée, c'est parce qu'on n'ouvre jamais les portes. Vous savez, on a tout ça là, en dessous de l'évier, deux portes là, avec des. Bon, on n'ouvre jamais ces portes-là ou presque. Mais il y a des émanations de ces produits chimiques-là. Tu sais, quand il y a un petit bonhomme de mort, là, une petite tête de mort sur votre produit.
D'habitude, c'est pas là pour rien.
Non, il est assez fort, ce produit-là, mine de rien. Fait que les émanations, surtout les affaires qui ne sont pas bouchées, qui circulent à l'interne avec des fois un petit peu d'eau, ça peut faire une espèce de corrosion, ça peut faire exploser vos tuyaux, particulièrement ceux avec cette espèce de petit revêtement en aluminium. Je te dis, c'est dit dans le code du bâtiment. Donc, le monsieur avait raison. Puis, tout le monde a ça chez eux. Donc, dans un monde idéal, si vous êtes capable de laisser dans un endroit où est-ce que ça circule un peu mieux, une porte fermée, où est-ce qu'il n'y a pas des tuyaux en dessous. Tu sais, si dans un tiroir, il n'y a pas de tuyaux, il n'y a pas de problème. Mais sinon, vérifiez vos tuyaux. Mais en tout cas, bref, monsieur avait raison. Je pense que je te dirais que 99 % des ménages au Québec ont leurs produits nettoyants comme ça.
Mais
en dessous.
Et combien de bouteilles en plus qu'on a dans ce petit compartiment-là?
On en maudit parce qu'il y a quand même eu le temps de les sortir à 4 heures du matin. Je vais te le dire. On en avait. Mais tout ça pour dire que ça peut vous éviter bien des soucis. Parce que là, nous, on a été chanceux. Là, imagine, je sais pas, c'est un samedi, on est parti souper chez des amis. Là. Je ferme pas l'eau quand je vais souper chez des amis. Là. Mais si ça avait coulé pendant 2, 3, 4 heures, la maison aurait été inondée, en tout cas le sous-sol, pas partout dans la maison, mais à cause d'un tuyau qui a fendu. Il n'y a pas de preuve, le tuyau ne me l'a pas dit que c'était les produits. Mais dans bien des cas, c'est ce qui cause les fissures, c'est les produits qu'on a en dessous. Donc, soit les boucher comme il faut, soit les sortir de là pour que ce soit dans un endroit plus aéré. C'est le conseil que le petit monsieur chez Canac m'a donné.
Mais on dirait que ça spinne dans ma tête parce que d'un côté, je me dis, hey, ces produits-là, ils arrivent à fendre un tuyau, puis nous, on met ça sur notre comptoir. Après ça, on mange sur le comptoir. Fait que, tu sais, il y a tout ça. Puis
il y a tout ça.
Tu sais, mais je regardais justement, tu sais, pour m'informer un petit peu sur ce genre d'affaires-là, parce que, veux pas, on veut évoluer, puis tu sais, l'environnement aussi. Et je pense qu'il y a une application avec laquelle on peut scanner le fameux code barre sur les produits. Et ça nous analyse, en fait, les ingrédients pour voir bon, à quel point c'est nocif ou à quel point c'est correct. Peut-être que si on avait des produits un petit peu plus santé,
un petit peu plus bio, mais...
Ouais, tu sais, revenir aux recettes de grand-mère, le vinaigre, citron...
Bien, le vinaigre, ça fait la job. Attitude font de très bons produits, mais ça commence juste. Moi, souvent, on reçoit des échantillons, là, vu qu'on fait de la télé puis de la radio. Puis date, honnêtement, j'ai pas été impressionné. À part les produits Attitude, les autres,
du savon
à vaisselle, ça mousse pas, on dirait. Ça enlève pas le gras. T'sais, à un moment donné, je veux bien être écologique, mais quand il y a une tache. Là, je veux qu'elle parte. Oui, si mon assiette est graisseuse... Mais je veux enlever le gras, là. Fait qu'à un moment donné, ça prend des produits un petit peu plus forts. Fait que j'ai bien hâte qu'il en fasse. Puis l'autre affaire, j'ai hâte que ces produits-là soient abordables. Parce que c'est sûr que quand tu regardes ton produit que tu es habitué d'acheter, puis là, l'autre là, qui est bon pour la planète, mais qui est deux fois le prix, on a tendance à prendre celui qu'on est habitué d'acheter. Fait que oui, faites-en. Puis mettez-les abordables aussi. Puis mettez-les à l'avant-plan, comme quoi c'est efficace et que c'est meilleur pour la planète. Mais t'as entièrement raison. Parce qu'effectivement, des fois, on essuie le comptoir. Il en reste sûrement un petit peu de produit là-dessus. Là.
On coupe
nos tomates.
Ben oui.
D'après moi, la tomate, elle a un petit peu de poudre magique dessus. Je suis pas sûr que c'est bon, mon intestin.
Mais en tout cas, tu viens de nous ouvrir là-dessus, Jean-François. Puis j'ai pris des petites notes aussi tout d'un coup, quand des godots, ça m'arrive. Canac avec le petit monsieur pour avoir les bonnes pièces.
J'ai eu peur, je pensais que tu allais me nommer. Je pensais que tu allais dire « je t'appelle pour que tu viennes réparer ».
Ah, mais sais-tu, peut-être que... Non? J'efface ton numéro dans ce temps.
Tu me connais plutôt de bonne humeur. Oui. Hein, Steph, on a travaillé ensemble dans d'autres radios. Je suis toujours de bonne humeur, oui. Presque.
Pas cette journée-là?
Moins quand j'ai la tête en dessous de l'évier. Je te le confirme, les travaux manuels, ça me rend plutôt grognon. C'est comme tu veux.
Bon, ben je te souhaite un meilleur week-end que ton matin du jeudi. Là. J'espère que ça va mieux se passer.
Merci, je vais voir Charlevoix ce soir. Je pense que ça va me mettre de bonne humeur.
Ouais. Ben profite-en, puis tu nous diras comment t'as trouvé ça.
Ce sera ma chronique de lundi.
Super, je vais écouter. Merci, Jean-François.
Bye, bon show.
Cube.
Débat, opinion et analyse.
Explore toutes les facettes de l'actualité.
Hier soir était diffusé à TVA le premier épisode de la nouvelle série documentaire Les Alouettes, nouvel envol. Et je n'ai pas l'habitude de parler de sport, mais moi, ce qui me rejoint beaucoup de cet univers-là, c'est l'esprit d'équipe. C'est l'ambiance qu'on va avoir dans un stade. Moi, je suis allée à l'Université Laval et l'équipe de football du Rouge et Or est quand même assez performante. Donc, je suis allée à plusieurs reprises, puis même si je comprenais pas tout au complet, là, du moins les règlements, ben en tant que spectateur, à un moment donné, on se sent investi. Puis nous aussi, on veut mettre la main sur la coupe. Puis c'est comme ça que je me suis sentie hier dans mon salon en regardant le premier épisode de la série. On en parle avec le réalisateur Brian Degagné. Brian, bonjour.
Allô, Stéphanie.
Merci beaucoup de prendre le temps de nous parler aujourd'hui. D'abord, Brian, on dirait que je suis curieuse de savoir, toi, le football, est-ce que tu étais un fan ou est-ce que peut-être tu l'es devenu aussi en suivant l'équipe des Alouettes?
J'étais un solide néophyte, sincèrement. Moi, j'avais jamais joué au football de ma vie. D'où je viens, au Lac-Saint-Jean, petit village, ça n'existe pas, le football. T'sais, c'est le hockey, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Ouais. Fait que quand j'ai été approché par l'équipe de Fairplay, par Kevin Neuf, pour réaliser ce documentaire-là, c'est sûr que j'adore le sport. Tu sais, je joue au hockey, je fais du snowboard, fait que c'est sûr que les sports d'équipe, fait que c'est certain que ça m'intéressait. Mais on a tous eu la piqûre, puis je pense que j'avais une ou deux personnes dans mon équipe qui connaissaient vraiment le football. La monteuse,
ça t'a aidé.
J'avais deux monteurs. Ben oui, mais ça, mais ça. Tu sais, j'avais deux monteurs, une monteuse qui avait jamais écouté une game de football de sa vie, l'autre, oui, un fin connaisseur. Mais je ne peux pas dire que ça aidait vraiment de connaître ça, parce que c'est l'humain, tu l'as dit tantôt. C'est ça qu'on voulait, tu sais.
Ben c'est ça, justement, quand on t'a approché, étant donné que, bon, tu avais peut-être un petit peu moins de connaissances là-dedans, c'est-tu pour ça que tu as orienté ta série documentaire vraiment sur l'aspect humain, sur découvrir aussi les joueurs des Alouettes?
Ben c'est un mélange de tout, des deux, en fait, sincèrement. Tu sais, ce qu'on veut aussi, c'est que ce soit accessible pour toute la population.
Ouais.
Puis, ce qu'on désire en série documentaire, en docu-réalité, c'est de s'attacher aux personnages. Tu sais, oui, ils sont des individus, mais à la télé, ils deviennent des personnages. Puis pour ça, c'est pas nécessairement les voir uniquement sur le terrain, mais c'est les voir dans la vie. Tu sais, ils sont qui eux? Tu sais, c'est qui? C'est quoi? Ils ont une famille, des enfants? Il faut s'attacher à eux. Il faut rire, il faut vivre des émotions avec eux. Tu sais, c'est ça qu'on voulait. Fait que c'était vraiment l'humain, l'individu avant tout, plus que le joueur des Alouettes.
Mais pour arriver à faire ça, pour arriver à entrer dans leur bulle, il y a quand même un lien de confiance que tu dois réussir à établir avec ces joueurs-là. Comment t'as été accueilli dans le vestiaire? Tu sais, au tout début, là, quand les joueurs se font dire, parce que faut remettre un peu en contexte, dans cette saison-là, les Alouettes ont eu un nouveau propriétaire, qui est Pierre-Carl Péladeau. Ils ont eu des nouveaux coachs qui sont arrivés. Donc déjà là, toutes leurs habitudes sont un peu chamboulées. Puis là, on ajoute une couche supplémentaire, puis on dit « Hey, on va faire un docu-réalité, il y a une équipe de production qui va vous suivre un petit peu partout. » Ça a-tu été bien accueilli au début? Comment ça s'est passé?
T'sais, c'est exactement ça. C'est que habituellement, ben, tu connais ça, t'sais, la télé, tu débarques, t'arrives, tu prends la... Tu vas pas prendre toute la place, t'sais, mais tu t'installes. T'sais. Tandis que là, on est arrivé au sein en plus du football. Je pense qu'il est le sport le plus hermétique, le plus fermé de tous. J'avais entendu parler de ça, tu sais.
Oh, ouais,
mais
hein?
De là, d'arriver puis de rentrer, puis que oui, l'organisation, les hauts dirigeants veulent qu'on soit là, les joueurs sont vaguement au courant, mais ils se demandent pourquoi. En fait, qu'est-ce qu'on fait là réellement? Ils ont aucune idée. Ils viennent de vivre une série de 9 défaites de suite. La saison va vraiment pas bien, mais le moral est là. Sauf qu'au début, c'est comme moi, je l'ai approché. Les gars sont pas vieux, là, veux pas, là. Fait que je les ai approchés comme des amis, tu sais. Tu tisses des liens. Byron Archambault, tu sais, sincèrement, au début, c'est grâce à Byron Archambault qui est l'assistant coach puis coordonnateur des unités spéciales. C'est lui, je suis allé le voir, un gars excessivement sympathique, très attachant. C'est avec lui que j'ai tissé les liens en premier, puis c'est un leader naturel. Fait que lui, il veut pas, je pense qu'il nous a aidé à parler aux autres joueurs, leur dire que, tu sais, hey, on est, il était là pour les bonnes choses. Puis tu sais, c'est certain que grâce à tout ça, mais t'arrives pas, puis hey, on débarque, puis on va filmer partout ce qu'on veut. Oh que non, là. Mais notre approche aussi, pour la première fois, je voulais pas les déranger pendant qu'on filmait. Tu sais, on filmait ce qui se passait. Puis Jason Mas, lui, il arrive de l'Alberta en plus. Lui, il a déjà vécu ça, une série comme ça. Puis lui, il comprenait pas des fois pourquoi on voulait parler aux joueurs un petit peu. Mais moi, je voulais leur parler juste pour tisser des liens. C'était même pas pour tourner, tu sais. Mais là-bas, en Alberta, quand c'est arrivé, il était en Saskatchewan, c'était pas là-bas. Puis lui, il comprenait pas parce que eux, ils les dérangeaient jamais, tu sais. Ça restait comme ça. Lui, c'est ça qu'il voulait. Mais ils nous ont pas accueillis à bras ouverts, là, vraiment pas, là.
Ben, en tout cas, bravo d'avoir créé ce lien de confiance-là avec eux, parce que, tu sais, aussi, il faut penser au fait que les médias, habituellement, ils vont avoir accès aux vestiaires. Bon, une fois que le match est terminé, pendant un court laps de temps, là, vous avez tourné peu importe l'entraînement, que ça soit une bonne journée, que ce soit une mauvaise journée, les caméras étaient braquées, puis vous avez filmé tout ça. Brian, je propose qu'on écoute un extrait de la bande-annonce de la série documentaire.
On s'attend à avoir une bonne foule.
L'énergie dans le stade, tu peux pas le décrire.
Tout le monde nous disait que dans le fond, on était 9e sur 9. Mais là, on a la chance de te montrer qu'en fait, on est premier.
Ça fait 13 ans que les Alouettes de Montréal ont pas participé à la Coupe Grey.
C'est le moment qu'on le sait, qu'on est officiellement champion de la Coupe Grey.
Marc-Antoine, de quoi le dit? Ça fait 13 ans que les Alouettes n'ont pas participé à la Coupe Grey. Moi, là, Brian, je me mets dans tes souliers. Quand t'apprends que tu vas réaliser une série sur les Alouettes, c'est sûr que la fin de ta série, c'est pas ça, là. C'est pas de mettre la main sur la Coupe Grey. Donc, j'imagine que c'est un vrai conte de fées. Quand plus la saison avançait, plus tu devais te dire, coudonc, on va-tu le vivre?
C'est une histoire Cendrillon. C'est exactement ça, tu sais. Ils disent, là, Alex Gagné, qui est le capitaine de l'équipe, là, tu sais, un grand leader, c'est ça qui est génial dans cette équipe-là. Tu sais, il a dit 99% des gens ne nous font pas confiance, puis ils pensent qu'on va se planter. On était 9e sur 9. Cody Fajardo, il l'a dit, le quarterback, tu sais. Mais ils sont arrivés, ils croyaient, mais personne n'y croyait. C'était vraiment ça l'affaire, tu sais. C'est ça qui est fou, en fait. Puis au fil, tu sais, il veut pas. Nous, on était approchés pour faire 2 épisodes au début, puis 6 épisodes plus loin. Finalement, ils se mettent à gagner. Ils font.
Fait que là, les plans ont changé.
Ils gagnent. Toronto, Winnipeg, Hamilton, tu sais, ils s'en vont à Coupe Grey, on est sur le terrain, ça arrêtait jamais, on rajoutait des dates de tournage, on recommençait à tourner, on peut pas cesser comme ça. Ça fait 13 ans qu'ils n'ont pas remporté la Coupe Grey. Tu sais, même les joueurs, ils se sont rendus compte que, OK, ça va arriver. Là. Byron, là, il avait l'air d'un petit garçon de 8 ans, là. Tu le vois, il garde ça en dedans, mais Jason Mas, même chose, tu sais. Danny Machocha, tu sais, Mark Whitman, il pleurait sur le terrain, tu sais. C'est ouais. Ça qui est beau, c'est tu vois de l'émotion réelle. C'est ça qu'on a vécu aussi, tu sais. C'est
fou. Parlant d'émotion, je pense qu'il faut écouter l'extrait de Marc-Antoine Decoy.
Ils n'ont jamais cru en nous, man. Tu regardes partout, c'est écrit en anglais. Tu mettais le guide de TSN, c'est écrit Toronto contre Winnipeg. Tu venais ici, puis j'avais un jeu en anglais. Ils n'ont jamais cru en nous. Mais tu sais quoi, man? Gardez-le en votre anglais.
Il a lancé ce cri du cœur-là, puis tu sais, ça a fait beaucoup réagir. À la limite, il y a une petite controverse aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Marc-Antoine Decoy, donc qui sont pas nécessairement fans des Alouettes. Il y en a qui n'ont pas écouté Big Brother non plus. Donc là, tout d'un coup, Marc-Antoine Decoy devient ce personnage qui lance un cri du cœur sur le français. Et pour plusieurs, il est juste associé à ça. Sauf que là, avec ta série, ce qui est le fun, ben c'est qu'on les découvre dans toutes leurs sphères, sous différents angles. Tu sais, Marc-Antoine Decoy, justement, dans le premier épisode, qui nous confie sa mère... qui est la date à laquelle elle a assisté à son dernier match. Tu sais, il y a tout cet aspect-là qui est couvert. Là.
C'est ça qui a eu du respect, en fait, envers nous. C'est qu'on les a... on les a pas dérangés pendant les matchs, pendant les pratiques. C'est quand on les appelait, puis on allait dans leur vie personnelle. C'est là que là, on faisait de la vraie docu, tu sais, que ouais. Là, je leur parle, je leur pose des questions, on communique. Mais tu sais, on débarque, on est une gang de jeunes avec Marc-Antoine, qui est jeune, sa blonde, il nous accueille. On jase tous les... C'est deux amis qui jasent ensemble. Sauf, puis il me parle à moi, il parle pas à la caméra, tu sais. Fait que là, il s'ouvre, il commence à parler juste de ses ballons de football. qui ramasse, tu sais, puis qui paye les amendes, puis les infractions, puis là, finalement, il saute vers sa mère. Ouais. OK, tu sais, mon grand moment d'émotion. Mais là, si tu le vois, puis tu fais OK, il nous fait vraiment confiance, tu sais. C'est fou. Oh, et d'ailleurs, épisode 4,
ouais.
Qu'on a décidé de faire aussi à la réalisation, c'est qu'on a voulu présenter des moments, puis leur faire visionner ça. Fait que Marc-Antoine va visionner le moment où il a tout dit exactement ça aux journalistes.
Ah,
c'est quand même assez drôle. Faut le voir, épisode 4. Ouais.
Ah, ben ça, c'est sûr qu'on va être à l'écoute. Puis j'ai une petite question concernant, parce que, tu sais, je l'ai dit, là, je l'écoutais dans mon salon, puis pour vrai, d'assister un peu, tu sais, au fameux speech des coachs qui les craignent avant d'aller à un match, hey, moi, j'étais gonflée à bloc, là, tu sais, j'étais comme, let's go, les gars, on y va. Mais d'être présent dans le vestiaire, ça doit être une énergie, une chimie que tu n'avais jamais vécue, là. Tu sais, en plus, des équipes de tournage, tu le sais, on change d'équipe à chaque plateau. Il n'y a peut-être pas cette chimie-là qui a le temps de s'installer, mais là, d'assister à une équipe comme ça, tu sais, pendant 6 mois, ils sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble. Il doit avoir un méchant lien là, qui est créé.
Tu sais, c'est des grands gaillards. Tu sais, on s'en doute pas, mais le vestiaire des Alouettes à Montréal, au Stade Percival Molson, c'est pas gros. On n'est pas dans la NFL. Là. C'est tout petit. Là. Fait qu'on rentrait à 3. Alex Gagné, qui est le grand leader qu'il est, c'est lui qui fait les speeches la plupart du temps. C'est ça qu'on s'est rendu compte. Et chaque joueur a quand même leur présence, mais Alex, c'est vraiment lui qui fait les speeches d'encouragement avant les games puis qui craignent tout le monde. C'est, tu sais, t'as des gars de 300 livres, il y en a, sont 60 dans la chambre. Il fait chaud, ça sent super bon, ça sent vraiment très bon. Oh, clairement pas. Puis avant et après, ben, tu sais, ils sont vraiment crinqués, mais c'est beau à voir, là, tu sais. C'est comme moi, ça me rappelle le hockey, là. Une gang de jeunes qui se crinquent avant, sauf que eux, ce sont des professionnels puis ils gagnent leur vie avec ça, tu sais.
Ouais, exactement. Et là, donc, il y a 4 épisodes, mais il y a 4 épisodes qui s'en viennent aussi à l'automne. Est-ce que vous êtes en train de les tourner en ce moment? Ça ressemble à quoi le calendrier de tournage?
On commence à tourner dans 2 semaines. On a quand même des petites parties de tournée déjà avant. Fait qu'on va s'immiscer encore une fois dans la vie personnelle des gars. On va vous faire découvrir des nouveaux joueurs que vous avez déjà vus quand même, tu sais. Bourassa, Chagnon, il y a d'autres nouvelles recrues aussi. On va aller au camp d'entraînement, cérémonie de la bague. On va assister à plein de trucs. J'établis mon tableau de contenu dans ma tête pour les 4 prochains épisodes. Puis après, on verra ce qui se passe. Hein. On ne sait pas si on se rend encore plus loin.
On y croit. Non, tout à fait. Est-ce que tu penses que tu vas t'ennuyer de l'équipe une fois que ça va être terminé?
C'est clair.
Ah ouais. C'est
clair. Hein? On t'attachant, ces petites bêtes-là.
Ah ben oui, non mais j'en doute pas. Brian, t'as vraiment, en tout cas je trouve, t'as réussi à jouer avec les deux dualités de faire plaisir aux amateurs de football, mais aussi à intéresser ceux qui s'y connaissent un petit peu moins. Donc bravo pour ça. On va suivre les épisodes du docu-réalité Les Alouettes Nouvel Envol à TVA à tous les jeudis 19h30. Sinon, c'est disponible sur TVA+. Mais tu fais plein de choses aussi. Là, c'est toi qui réalise la série Chef de bois.
Ouais, exact, j'ai fait ça. Puis on travaille sur plein d'autres shows déjà en ce moment aussi. Là. C'est donc, ça la vie en télévision.
Ben
comme
oui,
toi.
C'est ça. Ben oui, non, mais t'as raison. Mais en fait, 3e saison, c'est juste que Chef de bois, ça a commencé la semaine passée. Donc, vous savez maintenant qui est derrière la série. Oui. Brian, oui?
Regardez Chef de bois, sincèrement, là, c'est toute une télé-réalité qu'on est très, très fiers d'avoir fait ça. Vraiment,
ben,
la troisième saison est formidable.
Ça nous donne quelques trucs si jamais on se perd en forêt. Sur comment s'alimenter, du moins pour une coupe d'or. Merci beaucoup, Brian. C'est super gentil de ton temps aujourd'hui. J'apprécie. Puis bravo encore pour ta belle série.
Bravo à toute l'équipe.
Merci,
Stéphanie.
Bye.
L'actualité décortiquée. Commentée.
Savoir et comprendre. Cube.
On sait tous à quel point l'activité physique est importante. On connaît les bienfaits. Alors, on devrait tous avoir les mêmes opportunités, avoir les mêmes chances de pratiquer l'activité qu'on aime. Et ce, même si on a des limitations physiques, même si on a des handicaps. Et je suis tombée sur un communiqué de presse. Ça a attiré ma curiosité, le défi Altergo. Et là, ben, c'est la 41e édition. Et pourtant, je ne savais même pas que ça existait. Je dois être complètement transparente avec vous. Je ne savais pas que ça existait. Pour en parler, Jean-Marie Lapointe, qui est porte-parole, est avec nous. Allô, Jean-Marie?
Stéphanie, tu n'es pas la seule. Même après 41 ans, on est encore en train de faire de la prévention, pas de la prévention, mais de la sensibilisation, de parler du défi sportif Alter Ego. Il y a des athlètes, il y a des gens qui sont même dans le milieu de la réadaptation qui ne connaissent pas encore le défi sportif. Et c'est vraiment très, j'allais dire, c'est répandu. Si tu regardes les Jeux paralympiques versus les Jeux olympiques qui ont lieu plus tôt, les estrades se vident. Il y a la présence beaucoup moins nombreuse des journalistes. Alors, je pense que Chantal Petitclerc, Benoît Huot avaient déjà proposé d'inverser. Pourquoi qu'on commence pas par les Jeux paralympiques avec une pause de 2-3 semaines? Après ça, on fait les Jeux olympiques. Est-ce qu'il y aurait un petit peu plus de monde? Ben écoute, ça vaut la peine de l'essayer parce qu'on l'a jamais fait. Mais en même temps, ne te sens pas mal. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le défi. Puis c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Il faut justement partager la bonne nouvelle, parce que, comme disait Yvon Deschamps, qui était le tout premier porte-parole, il dit que c'est peut-être l'un des joyaux les plus précieux au Québec, le défi sportif Alter Ego. Et tant qu'on n'y aura pas mis les pieds, puis tu fais partie de cette gang-là, tu ne pourras pas deviner c'est quoi. Mais une fois que tu viens au défi, tu es faite. Tu vas vouloir y revenir à chaque année.
Bien, j'aime ça entendre ça. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Donc, Jean-Marie, comme tu l'as dit, je suis probablement pas la seule. Explique-nous c'est quoi, puis explique-nous c'est quoi la mission du défi.
Le défi sportif Altergo, ben justement comme le nom dit Altergo, Altergo c'est un organisme, c'est une création de Monique Lefebvre il y a plus de 40 ans et qui, elle, avec des parents qui avaient des limitations fonctionnelles, a tellement vécu de choses, a tellement vécu je dirais pas de l'ostracisation, mais tu sais, il y a des gens qui se font pointer du doigt à cause de leurs différences, puis c'est pas toujours positif. Puis elle me donnait l'anecdote qui est quand même assez savoureuse, mais en même temps épouvantable. À l'épicerie, avec ses parents, les gens venaient donner de l'argent aux parents parce qu'ils faisaient pitié, dans leur point de vue, à monsieur, madame, tout le monde. Puis pourtant, Monique, elle disait, mais pourtant, on est normal, on a une vie normale, mes deux parents travaillent, on fait de l'argent. Mais c'est ça, c'est qu'il y a énormément de choses à changer dans les perceptions. À cette époque-là, il y a plus de 40 ans, ça existe encore. Il faut aussi éveiller les consciences. Mais elle a eu aussi l'idée de pourquoi qu'on ne créerait pas un événement qui mettrait en valeur les prouesses et les performances des athlètes extraordinaires. Oui, qui ont des limitations, mais ça reste que c'est des athlètes et qui font des sports. Tu te dis, hey, Steph, je te fais un défi. Viens jouer au basketball en fauteuil. C'est dit que tu vas avoir de la misère à dribbler et surtout que le panier n'est pas plus bas parce que tu es en fauteuil. Il est à la même hauteur qu'au basketball régulier.
Mon Dieu, donc, c'est sûr que je ne suis pas la game. Là.
Non, puis c'est normal. On n'est pas doué pour faire un sport adapté si tu n'as pas pratiqué pendant des semaines, des années et vraiment des grosses semaines d'entraînement qui précèdent justement des compétitions. Et c'est ça qu'on invite les gens à venir voir, c'est qu'au défi sportif, c'est un des rares événements internationaux où tu as des athlètes de la relève du sport scolaire qui ont entre 6 ans et 21 ans qui vont côtoyer de l'élite internationale. Et c'est ça le défi sportif Alter Ego. Et nous, comme porte-parole, on est plusieurs dans l'équipe, j'en fais partie. Notre job, c'est de vous inviter, vous les médias, à venir voir, venez jeter un petit coup d'œil, venez remettre des médailles avec nous autres, venez découvrir à quel point les athlètes sont tellement inspirants et qui font zéro fucking pitié. Je le souligne, il n'y a personne qui fait pitié là. Au contraire, c'est peut-être moi qui faisais pitié avec mes préjugés si je recule il y a 20-25 ans. Aujourd'hui, non. C'est fabuleux et c'est un événement unique en son genre. C'est le seul événement multisport au Canada qui a tous les types de limitations fonctionnelles. Je dis souvent l'exemple des Jeux paralympiques, c'est de la déficience physique pour la grande majorité des disciplines. Il y a quelques rares exceptions, il va y avoir de la déficience intellectuelle aux Jeux paralympiques. Mais ici, au défi sportif Altergo, c'est tous les types de limitations fonctionnelles. Donc ça, c'est spécial aussi. Mais ça, en même temps, je te dirais, Stéphanie, décris-moi le goût du café. Tu sais, le café, ça goûte, hein? Pas facile à décrire, hein, le goût du café?
T'as raison, le cherche.
Ben, faut que tu y goûtes. Ben, c'est T'as ça. Raison. Viens y goûter toi-même. Viens goûter au défi, puis tu seras plus la même, puis jamais, ça nous change. Et je ne connais pas un porte-parole dans l'équipe qui n'est pas là depuis 2, 5, 10, 25, 30 ans.
On est
là parce qu'on y croit et ça nous a...
Parce que toi, ça fait 22 ans que tu es porte-parole de l'événement. Tu as dû voir l'impact que cet événement-là a chez les jeunes qui ont des limitations physiques. Là, tu dois, tu sais, avec les années, en plus, ça a grossi cet événement-là. Au début, c'était sur 4 jours. Maintenant, ça s'étire sur plusieurs jours. Tu sais, ça a un réel impact chez les jeunes.
C'est 10 jours maintenant. Ça commence le vendredi 26. Ça se termine le 26 avril. Ça se termine le 5 mai. Il me semble que j'ai dit ça par cœur le vendredi. Il me semble que c'est
le 26
mai.
Oui, t'as raison. 26 avril au 5 mai.
26 avril au 5 mai, ça dure 10 jours. Et on a plus de 6000 athlètes. C'est quand même fabuleux, là. 6000 athlètes. C'était pas ça quand moi, j'ai joint les rangs là, du défi sportif. Donc, c'est assez fabuleux. Et effectivement, pour les jeunes, si on fait juste penser aux jeunes du sport scolaire, il y a beaucoup de professeurs qui nous disent à chaque année au défi, si vous saviez comment on se fait casser les oreilles par nos jeunes, ils rentrent, ils arrivent à l'école en septembre, c'est quand le défi sportif, on a hâte. Donc, ça veut dire qu'il se passe de quoi? Ça veut dire aussi qu'il se passe de quoi dans le cœur de ces jeunes-là qui sont malheureusement, encore aujourd'hui en 2024, pointés du doigt à cause de leurs différences. Nous, au défi sportif, on les applaudit à cause ou grâce à leur différence. C'est ça qui est différent. Alors, il se passe de quoi? Le jeune ressent de l'amour, de l'attention, des applaudissements, qu'il gagne ou non des médailles. Il sent qu'il est traité avec beaucoup d'humanité. Et c'est ça qu'on veut passer comme message. Puis les athlètes de l'élite, souvent, c'est des gens qui ont eu une bad luck, un plongeon dans une piscine, sont cassés le cou, des gens qui ont eu un accident de moto, un accident de voiture et qui se retrouvent du jour au lendemain avec une limitation fonctionnelle parfois très sérieuse. Je pense à ceux qui font, par exemple, du rugby en fauteuil roulant. C'est souvent des gens tétraplégiques qui ont eu vraiment un gros choc, un gros événement, un gros traumatisme. Mais quand tu les vois jouer au rugby en fauteuil, c'est pas pour rien qu'en anglais, le surnom du sport, c'est Murder Ball. Ça se rentre dedans. Il y a des flamèches, il y a des étincelles. Et c'est spectaculaire. Et quand tu regardes une personne qui a une paralysie cérébrale, qui est assez limitée, parfois même prisonnière de son corps, jouer au bot, c'est une forme de pétanque adaptée vraiment pour les Jeux paralympiques ou un sport para. Quand tu regardes les gens jouer au boccia et qui sont capables d'amener à 2 cm une balle alors qu'ils ont des spasmes, alors qu'il y en a qui sont même pas capables de se servir de leurs mains, mais qui ont une espèce de tige métallique sur le crâne qui fait bouger la balle, tu te dis « wow, OK ». C'est comme dit mon ami Félix Morin qui a une paralysie cérébrale, il dit « on n'est pas handicapé, on est handicapable ». Et ça, ça résume tout, on est handicapable.
Eh bien, Jean-Marie, je trouve ça tellement inspirant. Puis, tu sais, 41e édition, là, faut en parler beaucoup plus que ça. Faut qu'il y ait une plus grande couverture médiatique pour des événements comme ceux-là, parce que ça, ça fait vraiment une différence. Puis, faut amener un petit peu plus d'ouverture dans la société. Donc, Jean-Marie, merci beaucoup d'avoir pris le temps. On sera là, défi Altergo, du 26 avril au 5 mai, à Montréal, dans les alentours aussi, pendant une dizaine de jours. Il y a toute plein de disciplines qui sont organisées. On peut aller assister à ça. Merci d'avoir pris le temps. Puis, je veux juste te dire aussi que je te suis sur Instagram. Merci de nous mettre des petites pensées positives à tous les jours. Ça nous fait réfléchir. C'est un petit baume sur le cœur. Donc, merci Jean-Marie.
T'es un amour. Merci Stéphanie. Tu es invitée devant les millions de téléspectateurs. Tu viens au défi. Viens remettre des médailles avec moi. Puis si les gens se demandent, défi, c'est quoi ça? Défisportif.com. Ils vont tout savoir puis ils vont vouloir venir, ça c'est garanti.
Bien, on va être là. Merci beaucoup.
Bye.
Entendre, comprendre, réagir.
Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées.
Cube.
On parle avec François Trépanier, chroniqueur touristique. Salut François.
Salut Stéphanie, comment vas-tu?
Ça va super bien. Hey, moi, faut que je te dise que si je n'avais pas travaillé en communication, moi, j'aurais travaillé dans le tourisme parce que moi, j'ai grandi dans un gîte, le gîte de ma grand-mère. Donc, j'ai toujours eu du monde. On recevait des gens de la France, on recevait des Anglais. Il y avait toujours du monde à la maison. À tous les matins, on se réveillait. Moi, je versais le petit jus d'orange aux clients. J'ai grandi là-dedans. Donc, moi, là, parler de tout ce qui se passe à travers le Québec, de faire la promotion de nos belles régions, j'ai ça sur le cœur. Donc, je suis contente aujourd'hui aujourd'hui de te parler parce que c'est un peu ça qu'on va faire. On va regarder qu'est-ce qui se passe à travers le Québec parce que le printemps, c'est le fun. Tu sais, c'est les beaux jours. Là, il commence à faire de plus en plus chaud. C'est le fun. On veut sortir. Mais des fois, c'est la météo aussi qui est coussi coussa. On peut avoir plusieurs journées de pluie, mais c'est pas les activités qui manquent. Là.
Absolument pas. Puis avant de commencer avec les activités, je veux juste te dire que moi, j'ai le meilleur des deux mondes. Je travaille dans l'industrie touristique et je travaille dans les médias également. Alors, je te rejoins. Puis, tu as raison quand tu parles de l'industrie touristique. Nous, ce qu'on se plaît à dire, c'est qu'on vend du rêve. C'est ça notre métier. Hein? Tu le dis, toi, dans un gîte, les gens arrivent, tu accueilles les touristes comme si c'était des membres de ta famille. Puis ouais. Les gens repartent de leurs vacances avec un souvenir inoubliable du Québec ou de la région où ils ont passé leur séjour. Donc, je suis content d'entendre ça, que tu as œuvré un peu dans l'industrie touristique.
Ça m'a vraiment marqué.
On peut commencer du côté de Québec. C'est le Salon international du livre de Québec qui se tient vraiment jusqu'au 14 avril, qui est vraiment un incontournable dans les salons du livre qui sont organisés un petit peu partout là, du côté de la francophonie. C'est plus de 1000 auteurs qui vont être sur place, auteurs, autrices, entre autres là, Yves Beauchemin, Jeannette Bertrand, Kevin Lambert, Sébastien Diaz, India Desjardins, Simon Boulris.
C'est l'occasion d'aller faire signer nos livres, là.
Ouais, ben c'est le temps. Ils vont tous être là pour des séances de dédicaces. Vous allez pouvoir les rencontrer. Il va y avoir des ateliers d'animation. Il va y avoir des conférences. Il va y avoir des expositions, dont une exposition 20 visages de la BD au Québec. On le sait que la bande dessinée est extrêmement populaire. Alors, vous allez pouvoir visiter une exposition du côté du Salon du Livre. Wow. Vraiment, qui va vous faire découvrir l'univers et l'histoire de la bande dessinée au Québec. Alors, c'est un très beau rendez-vous du côté de Québec ce week-end.
Ah oui, je pense que ça va attirer les foules, assurément.
Oui.
Sinon, écoute, si on va en Estrie, oui.
Oui, ben c'est ça du côté de Sherbrooke. C'est le Festival de cinéma du monde qui a lieu jusqu'au 14 avril. C'est la 11e édition déjà de ce cinéma. Les gens vont vraiment pouvoir voir là tous les types, que ce soit des courts-métrages, que ce soit des longs-métrages, des métrages de fiction, des documentaires. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être des œuvres qui vont venir de plus de 35 pays à travers le monde. Alors, c'est pas
quand
juste...
Quand même, c'est une belle portée internationale.
Absolument,
là,
ouais. Absolument. Ça tombe bien son nom, Festival de cinéma du monde. Alors, il y a 35 pays qui sont représentés du côté des cantons de l'Est. Vous allez avoir la chance de rencontrer plusieurs experts, plusieurs réalisateurs également qui vont être sur place. Il y a des films dédiés pour les tout-petits également qui vont être présentés. Alors, des fois, on se demande dans des festivals de films comme ça, est-ce qu'on y va seul, en couple, entre amis? Est-ce qu'on laisse les enfants à la maison? Ben là, c'est un beau rendez-vous pour toute la famille
familiale,
du côté
ben oui.
Des cantons de l'Est.
Surtout qu'il annonce de la pluie un peu. Mais moi, François, là, je dois t'avouer que je suis une planchiste. Et là, quand même, la saison de ski s'étire un petit peu là, dans certaines montagnes.
Ouais, ben écoute, du côté des Laurentides, c'est vraiment encore une fois le rendez-vous pour les skieurs. Du côté de Saint-Sauveur, c'est l'événement Slotch Cup ce week-end. Je sais pas si tu as déjà entendu parler.
Mais Saint-Sauveur sont très éclatés à la base. Là. Ils ont tout le temps toutes sortes d'événements. Là.
Je te dirais que c'est très éclaté comme événement, tu l'as dit. Les gens vont s'habiller vraiment là de façon loufoque, avec des habits de neige un peu coloré si on veut, et vont pouvoir aller profiter de différentes activités, aller dans l'eau, skier. C'est souvent des événements de fin de saison dans les montagnes de ski. Alors, dans les Laurentides, on va pouvoir vraiment en profiter. Du côté de Saint-Sauveur, il y a également Mont-Tremblant aussi, qui a des événements au sommet. Et il y a dans les cantons de l'Est, les montagnes des cantons de l'Est se compensent à Bromont, Orford, Sutton, All Z, qui sont encore ouvertes au public. Alors oui, le ski alpin est toujours en vogue, malgré, là, je regarde dehors, peut-être un 20 degrés présentement. Il y a de la bonne neige artificielle qui a été fabriquée, Stéphanie.
Non, mais il y a quelque chose de le fun aussi à skier en manche courte, là. Tu sais, veux pas.
Ah, absolument.
Et rapidement,
ça
François,
que le printemps arrive.
J'aimerais ça que tu me parles vite de la journée porte ouverte sur le tourisme, comme tu travailles là-dedans.
Ouais, ben écoute, la journée porte ouverte sur le tourisme, j'en parle d'avance, mais c'est du 19 au 21 avril, c'est parce qu'on demande aux gens de s'inscrire d'avance. C'est vraiment pour les passionnés de l'industrie touristique, comme toi, Stéphanie.
Oui.
Tous ceux qui rêvent de travailler dans l'industrie touristique, c'est plus d'une dizaine d'entreprises, entre autres en Montérégie, juste de l'autre côté de Montréal, comme entre autres le Arbraska, des hôtels comme le Escade au quartier 10-30, le Parc Safari, 13 Chocolat, Croisière Navarre, qui vont ouvrir leurs portes pour que vous puissiez aller découvrir qu'est-ce que c'est de travailler dans l'industrie touristique, quels sont les métiers qu'on peut vous offrir. Alors, c'est vraiment une belle expérience pour les gens qui disent, ben peut-être que je serais intéressé. Ben écoutez, oui. Vous pouvez aller voir, vous pouvez aller explorer. Alors, les places sont limitées. On s'inscrit à emploi@explorer.com et le tour est joué. Vous allez pouvoir aller vivre une expérience de travailler dans l'industrie touristique.
Et c'est tellement un beau milieu. Puis on manque de monde en plus. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Il y a vraiment de belles opportunités d'emploi là-dedans. Puis François, mon Dieu, merci. On a des idées de choses à faire à Québec, en Estrie, dans les Laurentides. Ça va être un gros week-end fort occupé. C'est mon week-end de fête en plus. Donc, je vais choisir parmi toutes
bonne fête. Puis écoute, choisis la meilleure activité possible qui te plaît pour ta fête, Stéphanie.
T'es fin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous préparer tout ça. C'est super apprécié.
Avec grand plaisir. Bon week-end.
Merci, merci beaucoup.
Bye bye.
Merci à tous les auditeurs de Cube. Merci à toute l'équipe de Cube, surtout qui m'ont supporté pour ce premier épisode en votre compagnie. J'ai bien apprécié. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Cube.